Le deuxième était le scroll.
Transistor.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de LMNSP. Aujourd'hui, au micro de Transistor, deux nouvelles recrues de l'équipe pour une émission spéciale sur les États-Unis. À mes côtés, Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Justine. Aujourd'hui, LMNSP vous propose un coup d'œil sur d'autres primaires que celles que nous avons vécues chez nous. La primaire des Républicains aux États-Unis. Et notamment une focalisation sur le Tea Party, ce vaste mouvement populaire qu'on observe de l'autre côté de l'Atlantique, dont on parle souvent mais dont on a du mal peut-être à appréhender le rôle et l'influence réelle.
Oui, et pour nous aider à décrypter ce mouvement, nous avons aujourd'hui comme invité Leila Rosler, professeure d'anglais à l'ENS de Lyon, notamment du cours sur les institutions et politiques américaines. Bonjour Leila Rosler.
Bonjour Justine.
Oui, alors qu'en France, la campagne des primaires est terminée, elle bat encore son plein aux États-Unis et le Parti républicain est à la recherche d'un champion capable de battre le président Obama.
On peut peut-être juste rappeler le contexte dans lequel se déroulent ces primaires. Une crise économique violente, une crise politique également, puisque face aux mesures économiques à prendre face à la crise, démocrates et républicains restent souvent sans compromis. Et du côté des républicains, on observe une prééminence des idées du Tea Party, souvent extrêmes. Elles laissent perplexes non seulement les observateurs internationaux, mais aussi une partie des Américains. On pourrait peut-être proposer à nos auditeurs un petit rappel concernant la naissance du Tea Party.
Oui, alors ça commence en février 2009. Un journaliste économique, Rick Santelli, s'emporte sur la chaîne CNBC contre les mesures prises par le gouvernement Obama pour lutter contre la crise. Je vous laisse l'écouter.
I'll tell you what, I have an idea. You know, the new administration's big on computers and technology. How about this, president and administration? Why don't you put up a website to have people vote on the internet as a referendum to see if we really want to
subsidize the users' mortgages? Je propose qu'on fasse un référendum pour voir si nous sommes vraiment d'accord pour subventionner les emprunts immobiliers des losers ou si on ne préférerait pas au moins acheter les voitures et les maisons allant être hypothéquées et les donner à des gens qui ont une chance de véritablement prospérer plus tard et que l'on récompense ceux qui peuvent porter les seaux d'eau et non pas ceux qui font que boire l'eau.
Voilà, alors il finit en s'exclamant « This is America » et cette adresse est considérée comme l'un des éléments déclencheurs du Tea Party, un mouvement populaire issu de la droite conservatrice américaine, dont le nom provient de la Boston Tea Party en 1773, événement pendant lequel des Américains jetèrent dans la baie de Boston du thé en provenance de Grande-Bretagne pour protester contre les taxes imposées aux colonies.
Et donc, depuis cette fameuse intervention de Rick Santelli et ces problèmes sur lesquels il insiste, le mouvement a gagné en partisans et en influence. Et aujourd'hui, si on regarde bien, tous les candidats à la primaire républicaine entretiennent des liens plus ou moins distendus avec le Tea Party, mais aucun s'en détache complètement. Donc, notamment parmi ces candidats, on peut noter un des candidats principaux qui est souvent en tête des derniers sondages, même si ceux-ci évoluent très régulièrement. Il s'agit de Herman Cain, un candidat noir, PDG d'une entreprise internationale de pizza et qui promet de gérer l'Amérique aussi bien que son business. Et en cohérence un peu avec les idées qu'on a pu entendre chez Rick Santelli, on peut citer lui la phrase suivante qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps. « Si vous n'avez pas d'emploi et que vous n'êtes pas riche, c'est de votre faute », a-t-il dit à propos des manifestations qui ont lieu en ce moment à Wall Street.
Oui, mais à égalité dans les sondages avec Herman Cain, l'ex-gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, qui est très critiqué pour sa réforme du système de santé qu'il a mis en place dans son État et qui ressemble à s'y méprendre à celui d'Obama. Il a également été accusé par l'aile droite des Républicains de ne pas être chrétien parce qu'il est mormon, même s'il semble que cette critique n'ait pas eu d'effet direct sur sa popularité.
Et on peut parler d'une femme aussi, Michelle Bachmann, elle aussi une figure éminente du Parti républicain. Diplômée de Laurel Roberts University dans l'Oklahoma, une université de droit chrétienne où les enseignements s'appuient à la fois sur la loi et sur la Bible. Et on peut souligner aussi qu'elle s'est faite remarquer il y a quelques années pour avoir accusé Obama d'avoir des idées qu'elle appelait anti-américaines.
Alors un autre candidat de longue date, c'est Ron Paul, le libertaire, très proche du Tea Party mais qui a des vues très personnelles qui ne sont pas partagées par les autres candidats. Par exemple, il veut réduire drastiquement les dépenses militaires, arrêté la construction du mur entre les USA et le Mexique, en disant que si les Américains doivent sortir, ils seront bien embêtés, et supprimer l'éducation nationale.
Et enfin, on peut citer un dernier candidat important, il s'agit de Rick Perry, l'actuel gouverneur du Texas, qui a organisé une grande prière dans un stade afin de mettre fin au déclin de l'Amérique, prière ayant attiré 30 000 personnes. Il est critiqué par le reste de son parti et du Tea Party pour une loi qui autorise les enfants des immigrés illégaux à aller à l'université. Et par ailleurs, il possède un ranch nommé Niggerhead. Il a été violemment critiqué pour cette appellation. Et enfin, il a accusé la sécurité sociale d'être une arnaque, une pyramide de Ponzi.
Penchons-nous à présent plus précisément sur les thèmes défendus par le Tea Party et auxquels ces candidats se rattachent plus ou moins. Le premier thème important, c'est la gestion financière du pays, la dette et les impôts. Un des objets de controverse ayant le plus contribué à la création du mouvement a été le plan de stimulus de l'économie de presque 800 milliards de dollars de début 2009 et qui a été perçu comme une intervention illégitime du gouvernement.
Et c'est justement contre certaines mesures de ce plan que s'emporte Rick Santelli dans l'extrait de 2009 qu'on a entendu tout à l'heure. Mais plus largement, cette obsession d'empêcher le gouvernement de dépenser l'argent des Américains, de s'immiscer dans l'économie des citoyens, est liée à une idéologie qui remonte plus loin, qu'on appelle l'idéologie de l'individualisme forcené, en anglais « rugged individualism », et qu'on retrouve en fait dans l'histoire des républicains, pas particulièrement du Tea Party, mais même de l'ensemble du parti républicain. Notamment, ce terme a été forgé par le président Hoover à la fin des années 20.
Et oui, et plus proche de nous, un homme important du passé des Républicains et qui inspire les membres du Tea Party, c'est Ronald Reagan. Avec sa citation célèbre, « Le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème ».
Oui, exactement, et on retrouve tout cela résumé dans une charte d'un des groupes du Tea Party, parce qu'il y a différents petits groupes qui chacun rédige des chartes qui se recoupent mais qui sont pas forcément exactement les mêmes. Donc dans une de ces chartes, on peut trouver des clauses comme « le gouvernement doit être réduit »,« il est nécessaire de réduire l'impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises », »,« il faut faire cesser les intrusions du gouvernement », qui reprend un peu le premier point mais qui est reprécisé plus bas dans la charte. Et donc on retrouve à chaque fois cette idée que l'État n'est pas là pour garantir un filet de sécurité aux plus démunis, que là n'est pas son rôle. Et cette crainte obsessive d'un État trop fort, d'un gouvernement autoritaire. Et on peut penser à un slogan du Tea Party récemment qui appelait à lancer une procédure d'impeachment d'Obama avant qu'on ne devienne l'union des États soviétiques d'Amérique. Donc qui montre justement cette crainte d'un gouvernement trop autoritaire.
Alors il n'y a pas au Tea Party que des slogans aussi exagérés. C'est une idéologie qui se veut fondée sur les textes fondateurs de la nation américaine. En fait, selon le Tea Party, les principes qu'ils défendent sont déjà présents dans la Déclaration d'indépendance et dans la Constitution de 1787, dont ils se disent les seuls vrais héritiers, ou en tout cas les seuls capables de l'interpréter correctement. Ce qui explique la reprise fréquente d'extraits de ces textes, et notamment des mots « we the people », « nous le peuple » de la Constitution, utilisés pour désigner ce mouvement prétendant reconquérir les droits légitimes des Américains. Un support visuel, d'ailleurs, qui est souvent utilisé, c'est le parchemin de la Constitution. Il est utilisé comme support pour la transmission de messages politiques. On pense par exemple à la campagne de Sarah Palin, avant qu'elle renonce à faire campagne pour la présidence, avec un bus qui arborait une Constitution géante.
Un autre thème important qu'on n'a pas encore évoqué, repris par les candidats du Tea Party, est la volonté de protéger la nation, donc notamment en renforçant les dépenses militaires pour la plupart des candidats, et surtout en fermant les frontières. On a tout de même deux exceptions parmi les candidats. Ron Paul, qui ne souhaite pas une augmentation des dépenses militaires et qui s'oppose donc à la construction d'un mur de séparation entre les États-Unis et le Mexique, comme on l'a dit. Et Rick Perry, qui avec ses mesures pour autoriser l'éducation des enfants d'immigrés clandestins, montre qu'il accepte la réalité de l'immigration avec laquelle les Américains doivent vivre. Mais sinon, de façon plus générale, une volonté de fermeture de la nation.
Et on peut enfin souligner l'importance des valeurs familiales. Alors c'est un thème assez banal, donc je ne m'étends pas trop dessus, c'est un thème assez traditionnel. Donc le rejet du mariage homosexuel, la demande de rétablissement de « don't ask, don't tell », donc la politique qui empêchait les soldats américains qui se déclaraient comme homosexuels de servir. Avec un exemple frappant, lors d'un récent débat des primaires, un soldat homosexuel a été hué par la foule, alors que c'est complètement impensable dans la culture américaine de manquer de respect à un soldat. Et avec aucune réaction de la part des candidats.
Donc maintenant que nous avons présenté rapidement ces thèmes, et vu que la plupart étaient partagés par l'ensemble des candidats républicains,
Le monde ne suffit pas.
Leila Rosler, vous allez pouvoir peut-être nous aider donc à mieux analyser la situation. Donc, tout d'abord, on a l'impression, donc depuis 2009, d'avoir assisté à l'émergence d'un nouveau mouvement qui a fait la une de tous les médias sur la planète progressivement, comme quelque chose qui apparaissait comme radicalement nouveau et révolutionnaire. Mais on a vu aussi que ça s'inscrivait dans une continuité. Et donc, dans quelle mesure est-ce vraiment là un mouvement nouveau et spécifique? Est-ce vraiment un mouvement nouveau?
Eh bien, je ne suis pas sûre que ça, ce soit réellement nouveau. Comme vous avez très bien souligné, ça reprend un certain nombre de thèmes qui ont été omniprésents dans la pensée américaine depuis les débuts, depuis l'opposition entre les fédéralistes et la constitution de politiciens ou d'hommes politiques qui souhaitaient un gouvernement central plus fort et ceux qui désiraient, comme Jefferson par exemple, plus de puissance dans chaque État pour qu'ils puissent gérer. Et les mouvements de droite, d'une manière relativement générale, je pense, reprennent cette idée que chacun doit gérer à son propre niveau ses choix politiques et qu'il n'y ait pas d'intervention d'un élément supérieur.
Et donc, est-ce que, en fait, le Tea Party, ce serait comme un label qui serait venu se poser sur un certain courant des républicains qui était toujours existant, ou y a-t-il eu quand même un remaniement, la création de quelque chose de nouveau?
Alors, on a l'impression qu'il y a une intégration plus forte de thèmes qu'on aurait peut-être vu plus particulièrement chez les libertarians ou des gens un peu plus forts dans leur opposition au gouvernement. Parce que les républicains, d'une manière générale, étaient quand même pris dans un courant politique. Alors que là, il y a vraisemblablement un rejet beaucoup plus massif de ce qui est gouvernemental.
D'accord.
Ou ce qui ressort du gouvernement. Et c'est comme vous disiez, c'est à la suite d'une crise économique. La création du Tea Party est la suite de cet economic stimulus lancé après la crise de 2008, et c'est très directement lié à ça, tout comme cet autre mouvement dont on pourrait parler, qui est le Occupy Wall Street,
plus récent. Ce mouvement.
Oui, ça annonce d'ailleurs en partie la question suivante. Je veux savoir dans quelle mesure justement ces mesures radicales proposées par le Tea Party sont-elles l'expression d'une frustration? Donc, vous avez mentionné la crise économique, mais on a aussi en ce moment aux États-Unis et dans le monde, enfin plus particulièrement aux États-Unis, une crise politique, une certaine perception d'un déclin de l'Amérique comme une superpuissance unilatérale, une frange de l'électorat, un déclin moral, un certain déclin moral avec par exemple l'abolition de Don't Ask, Don't Tell. Est-ce que vous pensez que, donc, en plus de la crise économique que vous avez mentionnée, il y a une frustration dans la société qui serait à l'origine du Tea Party?
À l'origine du Tea Party, certainement. Enfin, on peut difficilement exclure tout ce qui a été ouverture à partir. Depuis les années 60, nous avons été mis en contact avec de plus en plus de droits qui ont été étendus vers des groupes qui n'en possédaient pas. Donc on peut commencer très tôt en parlant des Noirs américains, ce qui paraissait tout à fait légitime. Et puis l'extension des droits à d'autres groupes peut-être plus petits et à chaque fois peut-être perçus comme de moins en moins légitimement pouvant accéder à ces droits. Donc on arrive aujourd'hui à cette opposition homosexuelle qui est partagée, je pense, par un certain pourcentage des Américains, mais pas globalement par la majorité des Américains. D'ailleurs, on en avait parlé tout à l'heure. Le soutien du Tea Party reste, dans la population générale, relativement restreint. Bon, ça tourne autour de 25%. D'accord. Donc, c'est quand même un quart. Mais le soutien, par exemple, de Occupy Wall Street est pas loin de 75%.
Mais ça, c'est pas peut-être parce que c'est tout récent et donc c'est une sorte de vague d'enthousiasme du début du mouvement?
J'en serais pas persuadée. Le Tea Party se fait chantre d'un certain nombre de choses qui, finalement, et ça fait partie des questions, je pense, que vous aviez, peuvent faire lever des boucliers des gens qui sont peut-être plus de bord libéral. Donc, certaines des choses, par exemple, le problème de l'homosexualité, l'homosexualité dans la population américaine en général est plutôt bien perçue. On n'a pas de... Mais dans ces groupes politiques beaucoup plus restreints, effectivement, on atteint des pourcentages de rejet très importants.
Oui, d'accord. Tandis que Occupy Wall Street se focalise sur des mesures économiques, le fait de prendre des positions aussi radicales sur certains aspects sociaux limite en fait le...
Exactement. Tant que ça reste un mouvement qui s'oppose à quelque chose de très concret, la façon dont Wall Street fonctionne, je pense que ça peut avoir un soutien très très large et ça peut traverser même visiblement à 75%, ça traverse républicains, démocrates, c'est un peu beaucoup de gens.
Oui, d'accord.
Alors que des oppositions sociales comme propose le Tea Party, en plus de leur opposition fiscale, etc., je pense, divise beaucoup plus de gens que ne rassemble.
Donc finalement, en se limitant à des revendications plus légitimes, finalement plus larges, le mouvement Occupy Wall Street augmente sa légitimité auprès du peuple américain.
Eh bien, je pense que c'est assez visible, surtout dans la mesure de l'extension du mouvement, non seulement aux États-Unis, donc ça a démarré sur Wall Street, ça s'est étendu sur d'autres grandes villes américaines, ça s'est étendu désormais sur des capitales un peu partout. Et puis, le fait que beaucoup d'hommes et de femmes politiques proposent spontanément leur soutien au mouvement Occupy Wall Street, alors que le soutien du mouvement Tea Party reste très mesuré.
Et justement, à propos justement de la structure du Tea Party, le Tea Party s'est toujours vanté d'être un mouvement grassroots, et donc ça aurait pu peut-être être là sa spécificité et sa nouveauté par rapport à d'autres courants républicains. Est-ce vraiment le cas ?
Eh bien, difficile de le dire. Peut-être que effectivement au début, donc vous avez parlé de Rick Santelli, mais même avant, je pense que lui-même est venu parler peut-être une semaine après un mouvement qui était vraiment, il me semble, d'après ce que j'ai lu, très spontané d'une femme à Washington qui a organisé. Elle disait, en 4 jours, bon, elle a réuni 150 personnes pour cette opposition. Donc c'est parti un peu de là. Tandis que maintenant, on pourrait même dire que ce mouvement qui était à l'origine un grassroots movement a peut-être été, on dirait en anglais, co-opted et se transforme en ce qu'on appelle en anglais astroturfing, c'est-à-dire transformer quelque chose qui est à l'origine et naturel, l'herbe, en quelque chose qui est artificiel, le gazon artificiel des terrains de jeu, AstroTurf.
Est-ce que vous faites allusion, par exemple, à la chaîne Fox News, la chaîne conservatrice Fox News, qui a donné beaucoup d'ampleur médiatique à ce mouvement dès le début ?
Ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement au niveau de certains... Parce que le Tea Party se défend d'avoir d'hiérarchie, de personnes à sa tête, mais effectivement, elle est financée par plein de gens. Il y a les Koch Brothers qui sont très, très proéminents dans le financement du Tea Party. Donc forcément, à un certain niveau, ça a été sa revendication grassroots est quelque part un peu, ternie. Je ne sais pas quel est le terme qu'on pourrait dire, mais est-ce que ça reste vraiment un mouvement du peuple ou est-ce que maintenant qu'on voit qu'il y a une injection massive d'argent, ce n'est pas aussi une transformation
D'accord, donc peut-être des reproches qui vont émerger pendant la campagne. Merci beaucoup, Leila Rosler, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Et en espérant, chers auditeurs, que cette émission vous aura aidé à mieux cerner les problématiques qui occupent en ce moment les Américains.
À très bientôt sur les ondes de Transistor et merci pour votre fidélité.